carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Marianne Durand-Lacaze.
Quels sont les doutes, les questions et les points de vue des académiciens sur la création d'aujourd'hui ? Comment se situe-t-il ? Désireux de faire partager au public du monde de l'art le fruit de leurs réflexions, le président de l'Académie des Beaux-Arts, François-Bernard Michel, a organisé une journée d'ouverture à l'Académie des Beaux-Arts pendant laquelle 5 de ses confrères ont pris la parole pour lancer le débat. Canal Académie vous propose d'écouter la 3e de ses interventions. Dans cette émission, vous pouvez entendre l'intervention de François Chalin, correspondant dans la section d'architecture de l'Académie des Beaux-Arts, accompagné des remarques de Guy Boyer, rédacteur en chef de Connaissance des Arts, modérateur des débats dans le cadre de cette journée exceptionnelle à l'Académie des Beaux-Arts, intitulée « Une journée à l'Académie ». C'était le 28 novembre 2012. Retrouvons Guy Boyer et François Chalin en grande salle des séances à l'Institut de France. Le texte de François Chalin s'intitule « L'architecture entre coup d'éclat et éclatement ».
François Chalin qui va nous commenter là aussi son état de la question architecturale avec ce titre « L'architecture, éclat et émiettement » qui est une vision très personnelle de la situation actuelle de l'architecture.
Voilà, ma communication a un caractère, je dirais, un peu historique et sociologique. C'est pas en tant qu'artiste que je parle, mais en tant que critique et qu'observateur. Je voulais vous parler d'un danger qui paraît menacer l'architecture, qu'elle vit elle-même comme un danger, celui de son éclatement, celui de son émiettement en de très nombreuses professions. Je ne vais pas en parler sur le mode de la déploration, car c'est un mouvement fatal, et c'est un mouvement qui s'inscrit en plus dans la marche générale du monde. J'essaierai en revanche de montrer ce qui peut rester à ce métier, l'architecte, qui correspond à ses ambitions traditionnelles et ce vers quoi le portent, au contraire, les valeurs qui dominent notre période, la période que nous vivons, et qui sont principalement, je pense que tout le monde en est d'accord, celles du libéralisme économique et de la mondialisation. Alors, qu'on m'entende bien, il n'y a jamais eu d'époque où l'architecture aurait constitué une seule profession, une sorte de farandole, comme sur ce monôme des élèves de l'École des Beaux-Arts, sur une gravure assez amusante d'Alexis Lemaître, qui est de 1889. Il n'y a jamais eu d'époque où sa doctrine, ses principes moteurs, ses rêves, ses codes, son esthétique auraient été unanimes. Ce que l'on sait par exemple de la Renaissance ou de l'âge classique, on commence à connaître très bien en termes professionnels ces moments anciens, révèle déjà la diversité des métiers, la diversité des statuts et leurs frontières extrêmement mouvantes. Par exemple, au milieu du Quattrocento, Alberti précisait à qui, au juste, il réservait le nom d'architecte. Et il répondait à celui qui, avec une raison et une règle merveilleuse et précise, sait premièrement diviser les choses avec son esprit et son intelligence, et secondement, comment assembler avec justesse au cours du travail de construction tous ces matériaux, etc., etc. Donc diviser les choses avec son esprit et assembler tous ces matériaux, c'est une définition de l'architecture que beaucoup de contemporains pourraient reprendre à leur compte. Un siècle plus tard, Philibert Delorme, que l'on tenait pour le premier des architectes français, c'est le premier qui savait parler latin, le premier qui avait été à Rome, ne consentait à la plupart de ses confrères que le titre de maître maçon. Cette discipline, l'architecture, qui s'est constituée ensuite en profession libérale, surtout au cours du XIXe siècle, conserve d'elle-même une idée sans cesse plus archaïque, c'est mon idée, et c'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Bien sûr, les petits praticiens de banlieue ou de province, dont on voit les plaques, les noms inconnus qui se lisent sur les plaques émaillées aux façades des pavillons, n'ont eu bien sûr que peu à voir avec leurs contemporains de meilleure notoriété. Par exemple, c'est notable qu'Édouard Pourchet avait photographié pour son album célèbre de 1894 Nos architectes parmi leurs meubles et face à une bibliothèque de traités reliés en cuir. Ici, c'est Honoré Daumet, prix de Rome 1855, membre de notre institution, reconstructeur de Chantilly, comme notre ami Boiret maintenant, et restaurateur du Théâtre antique d'Orange. Longtemps pourtant, et même chez les professionnels les plus établis, la dichotomie, je dirais la schizophrénie, a été de règle. On se souvient, par exemple, de cette page que j'aime bien, des mémoires d'un architecte, dans laquelle, en 1968, Fernand Pouillon évoquait une conversation entre deux de ses confrères. « Que fais-tu ? » « Oh, du sordide. Et toi ? » « Ah, bah, moi aussi. » Les mêmes architectes, précisait Fernand Pouillon, mignotent, le mot est lui, mignotent, mignotent amoureusement un projet d'église pour Santa Fe ou une salle de concert destinée à Hololulu, et la conversation prend un ton différent. Je construis un élément sur coffrage paraboloïdes hyperboliques. D'ailleurs, tu verras dans le prochain numéro de l'architecture d'aujourd'hui, il y aura des photos et un article de Vago ou de Bloch sur les formes étonnantes de mes structures. La figure de l'architecte mimant le prince a été superbement incarné dans les années 60 encore par le constructeur de grands ensembles Émile Ayot, l'auteur de la Grande Borne. Cette photo que j'ai trouvée n'est pas la plus représentative, mais encore de plus formidable. Parce que cette figure de prince, il la traduisait, y compris dans son accoutrement, blouse, lavalière, des cols extraordinaires, des manchettes pleines de broderies, de très lourdes chaînes en or comme un Médicis. Il s'agit en fait d'une profession tiraillée entre une aspiration au modèle de l'artiste et entre son immersion dans un univers où d'autres spécialistes, les ingénieurs notamment, puis une multitude de savoir-faire au fur et à mesure que s'accroissait la division technique du travail n'ont cessé de lui tailler ce qu'il faut bien appeler des croupières. Face à cette nouvelle réalité, certains en appelaient à une sorte de démission ou plutôt à une sorte de création collective. Ainsi l'architecte Joseph Belmont dans un ouvrage de 1970. Raymonde Moulin, la sociologue, a fait en 1973 pour la première fois la sociologie de ce métier. C'est un moment où il connaissait un de ses grands basculements. Alors elle notait un désenchantement général, c'était en 1973, il y a 40 ans, un désenchantement général chez des praticiens travaillés par le mythe du démiurge, on disait souvent le mythe du chef d'orchestre, dans un univers où l'expertise était déjà atomisée et où les prestations de l'architecte devenaient fragmentaires. C'était il y a 40 ans. Depuis, le mouvement s'est bien sûr formidablement accéléré. Plus de chefs d'orchestre, plus vraiment de compositeurs. On parlait couramment de composition urbaine, comme dans cet ouvrage de Pierre Riboulet, assez récent, pourtant il est de 1998, 11 leçons sur la composition urbaine. Donc plus de compositeurs, plus de chefs d'orchestre, éventuellement des orchestrateurs, à condition qu'eux-mêmes tolèrent les couacs et tolèrent les dissonances. Les choses se sont complexifiées à un tel point que l'analyse de la profession, l'analyse du métier, ou plutôt des métiers d'architecte, et notamment en termes sociologiques, mais aussi bien économiques, est devenue un genre universitaire et éditorial en soi, comme en témoignent les 10 ouvrages que je montre là, je pourrais en montrer 20. Voici une gravure célèbre de l'architecte postmoderne italien Aldo Rossi. This is long here, ora questo è perduto. Maintenant, tout ça est perdu, tout ça est fichu. Une allégorie d'une discipline qui lui est écroulée, comme beaucoup de ses contemporains. C'était en 1975. Une déploration, donc, vous disais-je. Ce que je veux souligner, c'est qu'il s'est opéré une redéfinition de la place de l'architecte dans les processus de construction. Une redéfinition qui tente à minorer son rôle, à l'encadrer d'une part, à l'accabler de normes, estime-t-il, avec quelques raisons, à le contraindre au partage des compétences d'autre part avec d'autres métiers, et qui le renvoie, qu'il le veuille ou non, qu'il s'en réjouisse ou qu'il en souffre, au statut d'artiste plutôt que de technicien, au statut d'artiste plutôt que d'ordonnateur du monde, un artiste glorieux dans le cas de certaines vedettes ou de certaines figures, et un artiste plus dérisoire et souvent assez chagrin dans beaucoup d'autres cas et d'autres situations.
Oui, vous dites ordonnateur du monde.
Hein. Oui, ordonnateur du monde, bien sûr. Souvenons-nous de l'introduction de Claude-Nicolas Ledoux, j'avais préparé cette image, à son ouvrage de 1804, l'architecture considérée sous le rapport de l'art, des mœurs et de la législation. L'architecture est semblable aux astres bienfaisants qui éclairent le monde. Quel mortel a cet aspect imposant, si dont il parle, c'est donc l'architecture, ne sent pas toute sa petitesse et ne se prosterne pas devant l'architecte, rival du créateur. Bon, c'est une activité de bric et de broc aujourd'hui, l'architecture, et il arrive à ses positions, à ses affirmations publiques, à ses déclarations, à ses manifestes, de sonner un peu creux, comme les armures du film de Bresson, Lancelot du Lac, qui émettait, vous vous en souvenez peut-être, un bruit de casserole. Ou comme l'architecte de la fameuse gravure baroque « L'habit d'architecte », qui est extrait de la série des costumes grotesques et métiers de Nicolas de l'Armessin, qui m'évoque parfois une espèce de colporteur en tuyau de poêle. Je vais tenter de vous présenter quelques exemples de son évolution, et puis in fine de préciser en quelques mots certaines dimensions doctrinales, techniques, sociales ou artistiques qui, pour les années que nous vivons en tout cas, ouvrent néanmoins des perspectives à la création architecturale. J'aurais aimé illustrer cet exposé simplement par des portraits d'architectes, tant ils sont révélateurs de leur statut et de l'idée qu'ils se font d'eux et de l'idée que la société se fait d'eux. Voici un jeune pensionnaire à la Villa Médicis, Charles Garnier, peint en 1848 par son ami Gustave Boulanger, prix d'homme de peinture. Le voici célèbre 10 ans plus tard dans un tableau de Paul Baudry avec les instruments traditionnels de la corporation, équerre et rouleau de plan. Et puis photographié par Nadar, photo magnifique. Voici un architecte statufié en buste, Félix Duban, par Cavelier. 1872, déposé au bas de l'escalier du bâtiment dans lequel nous nous trouvons, près des porte-manteaux. Vous pourrez le voir, ayant descendu à droite les deux étages de l'escalier. Toujours, toujours, le visage de l'architecte a été redessiné par lui-même. La Vallière, barbe, canne à pommeau, canotier à sous-face blanche d'Auguste Perret, pas sur cette photo, mais sur d'autres. Nœud papillon et lunettes du Corbusier, qu'on trouve comme une espèce d'objet perdu, d'objet à réaction poétique sur cette nature morte photographique de René Bury de 1960. Vous voyez, les lunettes de Corbusier étaient devenues véritablement un emblème de sa figure. Et puis sur tant de portraits, notamment celui d'André Villers, 1955, dont en 1995, sans verser droit d'auteur au pauvre photographe qu'on espérait mort, d'ailleurs, la Suisse a fait son billet de 10 francs, qui sont maintenant vendus sous son nom par les lunettes Bonnet, monture Le Corbusier, modèle Le Corbusier. Ça, c'est sur Internet. Cuir noir et bottes Santiago de l'architecte Daniel Libeskind. Voici une figure connue. Oui, c'est celle d'un architecte des années 60, Claude Parent, et ses favoris. Voici le même devenu académicien et récemment coulé dans le bronze. Voici un couillu. Je m'excuse, mais nous sommes bien qu'il y ait des beaux-arts. Le couillu est une tradition des beaux-arts. Pierre Parra, vu par son ami le sculpteur Philolaos, et l'objet, la statue énorme, elle fait 4 mètres de haut, accueille les visiteurs dans le hall de son immeuble. C'est une certaine incarnation de l'architecte. Voici l'une des premières vedettes mondialisées de l'architecture et parmi les initiateurs du genre médiatique, Philip Johnson, en couverture ici d'un numéro de Time Magazine de janvier 1979. Johnson, figure extrêmement intelligente, caustique, cynique, dont la plus grande contribution à la pensée contemporaine aurait été son célèbre « I am a whore », « Je suis une pute ». Idée moderne, d'ailleurs répercutée à l'envi sur Internet, vous pouvez faire l'expérience, vous tapez les trois mots « Philip Johnson » et « whore » sur Google, et vous obtiendrez 233 000 réponses en 0,37 secondes. Enfin, c'est comme ça la semaine dernière. Peut-être maintenant, il y a un peu plus de réponses encore. Voici Philip Stark, le designer qui construit d'abord sa propre image, poussée à la limite du pitre, bien sûr. Puis ensuite, celle des marques qu'il emploie. D'abord la sienne, car cette image répercutée, cette propre image, sert ensuite l'image des marques, l'image des produits qu'il dessine. Voici deux stars contemporaines, Zaha Hadid en somptueux froufrou de diva, et Jean Nouvel, campé ici en contre-plongée, comme sur l'affiche d'un film américain. Voici Rudy Ricciotti, ou une vision plus rockstar, plus cinéma, plus chanson, l'architecte souvent un animal sexué et parfois un peu destroy. Star, l'expression est bien sûr tout à fait nouvelle. Le cavalier Bernin, tel que nous le décrit par exemple Chanteloup, était une personnalité adulée, courtisée, parfois capricieuse, mais ça n'était pas une star. La notion est moderne, les codes sont assez différents. Voici par exemple un architecte au travail à l'époque de l'Art Nouveau, le célèbre architecte belge Henri Van de Velde, représenté à sa table à dessin par Théo van Rieselberg, un rapin, quelque chose de bohème. Et le même quelques années plus tard, vers 1923, regardez l'évolution, il est avec T et Eckers encore, notez la modeste blouse blanche de l'artisan ou de contremaître, tout ça a une signification sociale bien sûr manifeste. Voici Le Corbusier avec son simple carnet de croquis à l'usine Duval de Saint-Dié vers 1950. Et voici Norman Foster, 60 ans plus tard, travaillant comme un ministre dans son propre avion. En général, d'ailleurs, il préfère les piloter, ses avions. L'architecte célèbre et mondialisé, il est sans cesse en déplacement. Voici Foster pilotant son avion. Il pilote, vous savez, des hélicoptères et des jets à réaction lui-même. Rem Koolhaas, l'architecte néerlandais extrêmement célèbre, dans son livre de 1995 qui s'appelait SMLXL, publiait sur une double page le graphique de ses voyages et de ses nuits d'hôtel. Et notre ami Roger Taillibert, 86 ans, et, m'avait-il dit l'an dernier, si je crois avoir bien retenu, 40 000 km par an en avion. Ceci est tiré entre les Émirats et l'Amérique du Nord. Voici maintenant des vues d'agence d'architecture. Regardez le caractère artisanal de l'agence de Corbu. C'est son atelier de la rue de Sèvres, photographié en mars 1950 par Doineau, puis ensuite, en 1959, par René Bury. Il n'y passait que l'après-midi, car le matin, il peignait chez lui, rue Ningesser et Colli. À gauche, c'est par Doineau en 45, à droite, c'est par Bury en 60. Foster, encore une fois, sur la mezzanine qui domine l'une des plus grosses agences du monde contemporain, la sienne. Un patron, donc, et à l'étage inférieur, un paysage humain, une nappe humaine qu'on dirait inspirée de Jacques Tati. Nappe monotone de ses collaborateurs rivés à un ordinateur. Il en avait eu jusqu'à 1500 salariés. Il en compterait aujourd'hui 5 ou 600. À quoi rêvent-ils derrière leurs écrans? Tous ces gens ultra diplômés sont-ils encore vraiment des architectes?
Alors, François, vous nous aviez parlé d'un entrelac de compétences. Vous nous aviez dit tout à l'heure, je vais vous parler justement de l'éclatement de ces fonctions. Alors, qu'en est-il?
Oui, entre la compétence d'abord au sein même de chaque agence, comme entendait exprimer un autre graphique de Colas dans l'ouvrage dont je parlais. Vous voyez, un entrelac de compétences que cette espèce d'organigramme de son agence veut mettre en valeur. Il y a les noms des gens et leurs compétences et leurs activités et leur participation dans cette espèce de réseau, de résille à divers projets. Mais aussi au sein des maîtrises d'ouvrage. Voici par exemple la composition des équipes exigées il y a quelques semaines dans un avis de concours pour une simple piscine. Un petit équipement. Spécialiste en fluides et thermiques, en structure, économie de la construction, paysage, acoustique, scénographie ou architecture d'intérieur, comme si l'architecte n'était pas capable en théorie de le faire, développement durable, voiries et réseaux. Ceci est-il précisé dès l'acte de candidature? C'est un véritable générique de film. C'est-à-dire que vous candidatez pour faire une petite piscine dans une petite ville de province et il faut que vous ayez une équipe aussi importante. C'est quand même tout à fait extraordinaire. Passons. Je ne parle pas de ce qu'on appelle aujourd'hui les PPP, c'est-à-dire les partenariats publics-privés, dans lequel l'architecte n'est plus qu'un partenaire très fragile, parfois très secondaire, mais dont on affiche l'image au mieux, au sein d'une équipe organisée et totalement dominée par une des entreprises majeures du bâtiment. Les grosses agences d'architecture sont divisées en véritables départements également, dans lesquels il y a toute une hiérarchie de projets, de chefs de projet, de sous-chefs de projet, et comme dans l'industrie, la gestion de ces équipes, la gestion de ces agences, leur pilotage, nécessite le concours de compétences spéciales qu'on appelle les process managers qui viennent faire des diagnostics, des sortes d'audits des agences de façon très régulière.
Et l'urbanisme, est-ce qu'on peut aborder aussi cette question de l'urbanisme en général ?
L'urbanisme. L'urbanisme a beaucoup bénéficié ou souffert depuis quelques années des normes du marché immobilier et de la concentration des investissements en quelques groupes de promotion. En France, c'est très manifeste. Du coup, il est devenu très répétitif, très stéréotypé. Et là, une des plus ambitieuses opérations d'urbanisme actuelle, qui est celle de Boulogne-Billancourt, dans ces 12 d'années, vous montre bien le type de plan et le type de choses qui s'y fait. À grands frais, d'ailleurs, avec un très grand concert de très nombreux talents venus du monde entier, ou en tout cas de toute l'Europe. Donc un urbanisme répétitif et stéréotypé. Alors, on pourrait dire que ça s'est déjà produit en d'autres temps. Par exemple, dans les villes haussmanniennes, le Paris haussmannien est répétitif et stéréotypé. Ou bien dans la reconstruction des villes détruites après la guerre de 14. Ou bien sur des bases toutes différentes pendant les Trottes Glorieuses et puis le temps des HLM, disons. On pourrait s'en consoler en jugeant que l'urbanisme a atteint un standard, un moment d'équilibre. Toujours est-il que la hauteur des immeubles, leur épaisseur, leur silhouette, le rythme des cages d'escalier, le type de balcon, la relation aux espaces verts, la relation intérieure cuisine, séjour par exemple, se répètent d'une opération à l'autre avec des variations dans l'écriture des façades lorsque les îlots sont découpés en quelques lots qui sont confiés à autant d'architectes. Là, vous voyez, vous avez des gros îlots qui vous sentez en regardant un petit peu, en scrutant un peu les plans, qui sont découpés. Alors c'est des macro-lots, ils sont découpés et on donne des variations à faire à des architectes de grand talent et de grande notoriété à l'intérieur d'un îlot découpé et d'un macro-lot. Alors, d'une certaine façon, je ne dirais pas que c'est de la frime, mais c'est très largement un travail d'ornement, enfin en partie un travail d'ornement. Les paysagistes, voilà un nouvel interlocuteur. Les paysagistes sont omniprésents dès que l'opération tend à un certain standing. Par exemple, ici, c'est encore une image qui vient, je n'ai pas fait de faute d'orthographe, ça s'appelle losange comme ça, une opération du trapèze de Billancourt.
Ça vient peut-être d'oser.
Oser, oui. Ou osier, puisqu'il y a beaucoup de plantes et de roseaux. Donc, tout ça, les paysagistes multiplient leurs interventions, déploie un nouvel imaginaire qui est parfois très intéressant et très riche, mais qui a des connotations systématiquement bucoliques et qui sème en quelque sorte leur touffe de graminées dans un univers plus minéral, celui des architectes, et en grande partie pour contester l'univers des architectes. Ceci, c'était pour la déploration. Mais dans un même temps, l'urbanisme des villes européennes, il faut le savoir, a su développer d'extrêmes compétences dans des domaines les plus variés. Historiques, politiques, économique, circulatoire, de circulation. Il y a maintenant des spécialistes de la circulation et des spécialistes aussi de la sécurité, patrimoniale, festive, botanique, acoustique, d'ambiance lumineuse, autant d'ingénierie spécifique qu'il s'agit de croiser entre elles et qui, bien sûr, font que l'architecte, là-dedans, travaille avec immensément de gens qui ont leur pouvoir, qui ont leurs compétences et qui ont leur vision des choses.
Alors, est-ce qu'on peut dire que le statut de l'architecte est en train de se redéfinir et quelle est sa place, finalement ?
Bon, il est indéniable que notre époque, et vous le représentez bien, est demandeuse d'art. Et donc, elle est demandeuse d'architecture en tant qu'art, que grand art, ou en tout cas spectaculaire, que performance même, comme ce projet-là, dont je ne connais même pas l'architecte. Ça culmine, si on peut dire, dans les commandes qui sont liées au luxe, notamment ce qu'on appelle les flagship stores, c'est-à-dire les vaisseaux amiraux des compagnies de couture qui emploient, il faut bien noter, exactement la même liste close et courte de concepteurs que les musées, une short list. Arpentant, si vous arpentez le quartier de Ginza ou celui de Omotesando à Tokyo, où est la plus grande collection juxtaposée d'architecture par les grands créateurs contemporains, vous découvrez une collection d'édifices à gloire de Dior, d'Hermès, de Vuitton ou du maroquinier Tod ou de tel ou tel. Ils sont signés par Tadao Ando, Shigeru Ban, Renzo Piano, Kengo Kuma, Kazuyo Seshima, Fumiko Maki, Mario Botta, Toyo Ito. Ce sont les mêmes, vraiment les mêmes signatures, exclusivement les mêmes signatures, que se disputent les manias du luxe ou de l'art. Bernard Arnault, François Pinault, et puis après eux, les musées du monde entier, et après eux encore, les élus locaux, éventuellement de villes secondaires, qui sont soucieux de marketing et qui sont désireux de s'adjoindre une signature prestigieuse pour des projets d'urbanisme, même si l'objet qu'ils auront à faire, un centre culturel ou une bibliothèque municipale, sont sans aucune relation avec ce qui a fondé leur réputation initiale.
Tu as oublié Guéry, peut-être, dans cette liste?
Non, parce que Guéry n'est pas au Japon.
Ah oui, d'accord, c'est vrai. Mais c'est lui qui travaille quand même beaucoup pour les musées internationaux.
Oui. Prenons un cas, le cas des Balois, Herzog et de Meuron, qui sont, on peut dire, probablement les plus célèbres, ceux qui ont en tout cas le plus grand volet de travail, le plus artistique, en fait, qu'il est le plus diversifié parmi ces grandes vedettes. Ils ont été Pritzker Prize en 2001. C'est un exemple parmi d'autres. Ici, pour Prada, sur Omotesando, bâtiment formidable, hein, vous voyez, tout à fait étonnant. Dans leur pays, ils sont les architectes des empires pharmaceutiques Roche et Novartis, les deux. Ailleurs, des chais de Château Pétrus, du fabricant de meubles Vitra, de la Tate Moderne de Londres, de la fondation Caixa pour sa succursale madrienne du Paseo del Prado, du De Jong Museum de San Francisco, du Walker Art Center de Minneapolis pour sa nouvelle aile, de la rénovation du musée Unter Linden de Colmar, de la Chine pour le stade olympique de Pékin, de Hambourg pour la nouvelle philharmonie de l'Elbe, de la ville de Paris qui est à la recherche d'un gratte-ciel qui convainc une opinion qui, vous le savez, est très réticente à l'égard des tours, et finalement, dans un tout autre genre, dans un tout autre registre de compétences qui n'ont probablement pas, de la municipalité lyonnaise pour le plan d'urbanisme de la seconde phase de la presqu'île La Confluence.
Ça veut donc dire qu'il n'est plus question que de vedettariat.
Oui, le vedettariat est international, il est planétaire et il est absolument omnivore. C'est ça le problème, c'est qu'il est omnivore. C'est que le vedettariat s'empare toutes les occasions. Les lauréats du Pritzker Prize américain sont sollicités aux quatre coins du monde. Par exemple, ici, invité à l'Élysée par Nicolas Sarkozy en septembre 97, en marge du lancement du Grand Paris, il existe en quelque sorte une sorte de marché des architectes célèbres, comme il existe un mercato des grands footballeurs. La signature, la marque des architectes, ça veut dire qu'ils doivent tous être extrêmement différents les uns des autres, puisqu'il n'y a pas place pour deux marques identiques dans l'échelle mondiale. Il faut que chacun se distingue et invente une signature. Ces marques sont survalorisées. Elles permettent, comme une sorte de label, de vendre toutes sortes de produits, des produits dérivés en un sens, exactement comme la mouche des couteaux Léol, lorsqu'on applique à des fourchettes, à des stylos, à de la maroquinerie, jusqu'à des pantoufles. Vous imaginez les pantoufles en Léol. Eh bien, eux, comme Aldo Rossi, dont voici divers produits dérivés, ce seront des théières pour Alessi, des dessins, des architectures éventuellement, des plans d'aménagement urbain ou des ouvrages de théorie. C'est-à-dire un ouvrage et un artiste de très grande qualité, Aldo Rossi. Je ne conteste pas son talent. Mais vous voyez, la marque devient emblématique. Et si vous regardez le musée de Maastricht, qui est en haut à gauche, il a absolument la forme de la cafetière, parce que les choses doivent se répandre et participer d'une même signature. On me demande d'être une marque, déclarait d'ailleurs Christian de Porzampar. Cette photo, c'est pas moi qui l'ai gommée, elle était gommée comme ça dans Libération, un article de l'été 2006. On me demande d'être une marque. Quant aux autres, les architectes plus ordinaires, leur imaginaire fait une sorte de grand écart, assez douloureux. Ce sont des kidam, ils sont dans des petites voitures, ils sont contraints de rouler à 50 à l'heure face à des pilotes de Formule 1 auxquels on permet toutes les embardées financières, notamment et techniques. Ils sont tiraillés, les architectes, entre des mirages et la réalité, avec partout, dans le monde entier, au même moment. Ça, c'est aussi un problème, c'est peut-être une qualité, mais c'est aussi un problème de la mondialisation. Dans la tête, les mêmes modèles et les mêmes tentations esthétiques à peu près inabordables. Et puis, les architectes ont senti, c'est aussi une des raisons de leur douleur actuelle, la maîtrise du territoire leur filer entre les doigts. Ils ont compris que la ville n'est pas seulement une machine fonctionnelle, comme le pensaient les modernes, et comme en témoigne ce magnifique dessin, enfin ce magnifique projet, en tout cas ce magnifique dessin de Le Corbusier pour l'urbanisation des Lecours, c'est 1935. Ni une œuvre d'art, comme le déclaraient les postmodernes, c'est-à-dire l'héritage du passé, la concrétion des imaginaires. Ces postmodernes qui révéraient parmi tout le plan de Rome de Giovanni Battista Nolli, c'est un plan de 1748 auquel avait participé le Piranèse, mais que la ville était aussi une réalité totalement indomptable, une substance, comme l'a écrit de façon extraordinaire Colas, une substance, une donnée objective, un processus en mouvement qui recouvre le monde, le nouveau monde en tout cas, d'abord le nouveau monde, peut-être un jour le nôtre. Ici, c'est la ville chinoise de Chongqing, 34 millions d'habitants peut-être. Quant à l'ancien monde, le nôtre, ses paysages et ses quartiers sont inscrits sur les listes de l'UNESCO, village fleuri, petite cité de caractère, la belle de ceci, la belle que voilà, la vie rêvée par Amélie Poulain. Nous sommes tous condamnés à le maintenir, ce monde, à le maintenir en l'état. Ailleurs se construisent des cités énormes, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ce n'est pas la question, des forêts de gratte-ciel. Ailleurs se répand ce que certains ont appelé la ville générique, de Lagos à Vancouver. Générique, c'est la ville comme genre, la ville qui n'a plus beaucoup d'identité propre, qui est un bulldozer un peu indifférent au paysage et à l'histoire, qu'elle recouvre, qu'elle lamine. Et même, à vrai dire, le sentiment d'une Europe muséifiée est une illusion. Depuis l'espace, comme sur cette photographie nocturne d'une région faite par la NASA, nous percevons une autre réalité tout autour de nos villes. Et surtout, bien sûr, dans la Randstadt, ou dans la plaine du Pô, ou dans d'autres régions, mais aussi dans la région parisienne. Une autre réalité. Londres, pas plus que les régions qui vont d'Aix-la-Chapelle à Rotterdam, n'offre plus la rassurante séparation des villes et des campagnes. Partout, c'est le sprawl, partout c'est l'écoulement, partout c'est l'étalement urbain, et le découvrir a été véritablement une révélation pour des générations d'architectes qui n'avaient vu ou appris à l'école qu'un ne venait que les plans de Rome ou les plans de Venise. Les Trente Glorieuses nous avaient habitués à placer l'architecture sur un pied très productiviste, grands ensembles, équipements, chemins de grue, villes nouvelles, etc., etc., et à développer des réflexions à caractère social en signe d'une confiance affirmée, ou en tout cas exigée des architectes, confiance dans le progrès humain, ou peut-être comme une antidote face à ce qui se mettait en place. Les années postmodernes avaient traduit notre déception collective. Retour sur l'histoire, ici c'est Bofill, les styles, les symboliques, la géographie chez certains, le génie des lieux, retrouvailles avec la ville ancienne et le patrimoine. Les années que nous vivons, celles de la mondialisation, du primat de l'économique et de la concurrence, ont tout à fait redistribué les critères. Luxe, mode, hédonisme, individualisme, consommation culturelle et tourisme généralisé, exigence de compétitivité de la part de chacun, consommation culturelle et tourisme, marketing et médiatisation outrancière, d'où souvent une architecture spectaculaire, demandée comme spectaculaire, plus ou moins inspirée du modèle du Guggenheim de Bilbao, et ici, plus de 15 ans plus tard, bien sûr, le musée des Confluences de Lyon qui n'arrive pas à se construire, une œuvre des Autrichiens Kopp-Immelblau, ou ici, la Philharmonie de Jean Nouvel qui est en construction au bord du périphérique à la Villette.
Alors après cet ensemble de monuments qui sont en préparation, qu'est-ce qu'on peut se dire? Est-ce qu'il faut désespérer? Est-ce qu'on peut dire que l'histoire de l'architecture est terminée?
Je ne pense pas qu'elle est terminée, rien n'est jamais terminé. Et d'ailleurs j'ai dit que je ne ferai pas de la déploration, je ne veux pas vous attrister avec le portrait que je fais là de l'état de l'architecture. Mais je pense que l'histoire de l'architecture n'est pas terminée parce que cet art est éminemment plastique. Qui l'observe sur quelques décennies ou sur quelques siècles voit que l'architecture s'est préoccupée de sujets les plus divers et qu'elle a toujours été, d'une certaine façon, la même chose, c'est-à-dire l'architecture. Elle est capable, comme la plupart des arts, de renaître sans cesse sur de nouvelles bases ou sur de nouvelles questions que lui pose la société. De nouvelles voies se sont ouvertes récemment. Par exemple, la création virtuelle fait que pour des raisons techniques, ici c'est un projet pour la galerie Serroussi qui ne se fera pas, mais c'est un projet imaginaire, dessiné à l'ordinateur, vous sentez bien qu'il y a un nouvel imaginaire qui peut se mettre en place. Le construire sera peut-être une autre affaire. Des raisons économiques, des raisons écologiques, par exemple l'angoisse énergétique qui implique l'isolation des bâtiments par l'extérieur et une construction en mitouflé, ça c'est côté normatif, peut aussi développer des imaginaires particuliers. Je crois que j'ai une image de la suivante, est-ce que j'ai encore dit ? Oui, par exemple, ça c'est une chose tout à fait extraordinaire, c'est une sorte de coopérative dans l'Alabama qui s'appelle le Rural Studio, qui travaille avec des déchets. Ici, ils sont avec des déchets d'ordinateurs. Ils font des murs avec ça, comme on ferait des murs avec des ballots de paille. Donc, je ne veux pas dire que ce soit une solution pour tous nos problèmes, mais c'est des imaginaires qui s'ouvrent en réaction à de nouvelles crises ou à de nouveaux problèmes. Et puis, il peut y avoir des raisons culturelles qui transforment l'architecture. Par exemple, les modifications au sein de la famille ou l'internationalisation du comportement des élites qui deviennent assez semblables d'un bout à l'autre de la planète. L'intérêt pour l'art contemporain, la grande consommation de musées, d'événements. Ici, le récent musée Cocteau de Rudy Ricciotti à Menton qui a ouvert l'an dernier. Comme la musique, comme la littérature, comme les arts plastiques, comme la gravure peut-être. L'architecture, en plus d'être une activité technique extrêmement complexe et extrêmement socialisée, est aussi un art. Elle n'est peut-être pas principalement un art, mais elle est aussi un art. C'est-à-dire que de toute époque, de toute situation économique ou culturelle, de tout bouleversement technique, elle fait, bon gré mal gré, parfois en rouspétant, son terreau pour développer de nouvelles attitudes et déplacer ses activités, ses centres d'intérêt et ses esthétiques. Finalement, entre un objet étonnant de Franck Guéry ou de Jean Nouvel, un moment méditatif chez Peter Zumthor, une blague de tel ou tel, car l'architecture peut aussi blaguer, hein, et les petits bonheurs du jour, les micro-architectures qui sont très à la mode, probablement parce que les jeunes architectes se réfugient dans la micro-architecture faute d'accès à des commandes plus sérieuses, sachant quand même que quand Dominique Perrault s'est vu commander à la Grande Bibliothèque de France, il avait 33 ans. Et que si on prend les premières œuvres importantes, des Guimard, des gens comme ça, c'est dans ces âges-là qu'ils construisaient souvent leurs chefs-d'œuvre.
Mais tu as donné un petit peu la réponse tout à l'heure en disant que les agences ont besoin de tellement de compétences nouvelles qu'il est impossible pour un jeune architecte de réunir une équipe d'autant de talents.
Peut-être. Alors, donc, ils font des micro-architectures comme cette cabane maison de thé du japonais Terunobu Fujimori qui était exposée à Venise il y a 2 ou 3 ans. Il y a des tentatives diverses. Il y a toujours une place pour une réflexion, pour une expérience émotive, spatiale, mémorielle, esthétique ou bien sociale. On n'est pas tout à fait dans le moment de grandes expériences sociales, mais ça peut arriver. Et puis n'oublions pas que l'une des charges les plus prisées de l'Ancien Régime, parmi les architectes, était la charge d'architecte des menus plaisirs.
Comme quoi, d'une conférence à une autre, on peut parler de plaisir et ne pas avoir le même sens derrière ou les mêmes conclusions. Mais merci François pour cette brillante intervention, très bien documentée et qui nous a montré que l'architecture était un terreau plein d'espoir.
Vous venez d'entendre la communication de François Chalin intitulée « L'architecture entre coup d'éclat et éclatement » prononcée le 28 novembre 2012 dans le cadre d'une journée exceptionnelle à l'Académie des Beaux-Arts intitulé « Une journée à l'Académie des Beaux-Arts ». Écoutez les autres interventions de ses confrères et les débats qui ont suivi, menés par Guy Boyer, rédacteur en chef de Connaissances des Arts, en tapant sur le moteur de recherche de Canal Académie les noms de Claude Abeille pour la sculpture, Bernard Perrine pour la photographie, Pierre Caron pour la peinture et François-Bernard Mache pour la musique.